est aujourd'hui le 5 septembre. Pour ma part, c'est l'anniversaire de mon baptême, et je me demande si vous célébrez ça, l'anniversaire de votre baptême. J'espère que oui. C'est un grand jour. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Il m'arrive rarement de manquer d'aller à l'église ce jour-là et de rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous donne au sein du christianisme comme vision des choses, vision de la vie, sens de nos actions, de nos pensées même, et possibilité de découvrir au sein du christianisme Dieu dans tout son amour, dans toute sa tendresse. Et c'est ce qu'ont fait de nombreux saints à travers l'histoire de l'Église. Tous ces saints dont nous parlons à rencontre spirituelle, et aussi ces personnes comme, prédiscutées comme Charles Péguy, qui est mort un 5 septembre. 5 septembre. En recevant une balle dans la tête, il est mort instantanément. Durant la guerre, au tout début, tout jeune, 42 ans. Et combien d'autres comme ça qui sont morts, qui ne sont pas canonisés, et je pense pas que Péguy ne soit jamais canonisé, Charles Péguy était quand même un des écrivains chrétiens les plus intéressants et étonnants du début du siècle. On a même dit de lui que son œuvre égalait ce qu'il y avait de plus puissant au XIVe siècle. Certains diront qu'au XIVe siècle, il n'y avait pas d'œuvre puissante. Allez, il y avait des gens qui écrivaient des choses absolument fantastiques à cette époque. Alors nous parlerons aujourd'hui, en ce 5 septembre, surtout de Saint-Laurent Justinien, qui était le premier patriarche de Venise. Patriarche de Venise, Venise évidemment dans le nord de l'Italie, ça donne sur la mer Adriatique. Quand on regarde la carte, vous savez tous, je l'espère, que c'est à droite, n'est-ce pas, au nord de l'Italie. Une ville qui a déjà été comme le centre d'un empire économique extrêmement puissant. Et justement, il a été, lui, au XVe siècle, le premier patriarche de Venise, parce que le patriarcat appartenait à une autre ville non loin de Venise. Et j'aimerais dédier cette portion d'émission consacrée à Saint-Laurent Justinien, non seulement à Laurent Cadieu, prêtre et aumônier d'une résidence de vieillards ou de gens âgés ou de gens du troisième âge ou de l'âge d'or, on ne sait plus trop comment dire, qui est situé, n'est-ce pas, sur le boulevard Gouin, résidence Berthiaume du Tremblay. Mais je l'ai dédié à tous nos prêtres et à nos évêques, car ils ont là, en Laurent Justinien, un modèle fantastique de vie sacerdotale et épiscopale, extrêmement remarquable, c'est absolument phénoménal. C'est un Vénitien lui-même, il est né à Venise, le 1er juillet 1381, vers la fin d'une guerre très dure, de Venise contre la ville de Gênes. Gênes est de l'autre côté de la péninsule de l'Italie et donne sur la Méditerranée. Deux villes donc qui ont été en guerre et c'est achevé par le triomphe de Venise. Venise qui avait d'ailleurs une marine puissante. Et puis cette victoire a donné à Venise, un crédit immense dans toute l'Europe. Mais la mort frappait dans la famille de Laurent Justinien, dont le véritable nom en italien est Giustiniani. Et dans la famille des Giustiniani, sa mère, Quirina, est devenue veuve à 24 ans avec 5 enfants. Et cette femme, vraiment énergique, était une chrétienne convaincue. si convaincue qu'elle vivait un peu comme une religieuse d'un ordre sévère. Mais souvent très souriant, il ne faut pas croire que les ordres sévères ne cachent pas quantité de femmes au sourire remarquable. J'en prends pour exemple les Clarisses de Valleyfield quand j'étais allé tourner un film à l'intérieur de ce cloître. L'équipe avec laquelle je travaillais en 1971, je crois, 70 plutôt, avait trouvé que c'était invraisemblable de se retirer à l'intérieur d'un monastère pour tourner un film sur des femmes tristes. Or, ils ont rencontré là, à Valleyfield, chez les Clarisses, un des ordres les plus sévères à l'époque, des femmes merveilleuses, accueillantes, souriantes, si aimables qu'on se demande comment autant de femmes ensemble peuvent être aussi sympathiques. Et alors donc, cette femme, cette mère chrétienne, Madame Giustiniani, portait le cilice, je vous ai déjà expliqué ce que c'était, et une ceinture de fer. On est au 15e siècle, c'est au même au 14e siècle, puisque l'enfant Lorenzo est né en 1381, vous ai-je dit. Il est mort très âgé, en 1455. Et alors, Lorenzo est devenu un adolescent fort aimable, fort bien élevé, même assez élégant, et il était très sérieux, un modèle. On se moquerait de ça aujourd'hui et on dirait que c'est un enfant stupide, puisqu'il n'est pas surexcité et super énervé, et qu'il n'aime pas le hard rock et des choses comme ça. Non, il n'y avait rien de ça. Et sa mère trouvait là un peu d'exagération de la part de son fils, et elle craignait même qu'il tombe dans une forme d'orgueil et de prétention tellement les gens l'estimaient. Il répondait en souriant à sa mère, « N'ayez crainte, maman, je le veux, un grand serviteur de Dieu, et vous verrez. » Alors, dans son fasciculus amoris, ou le fascicule, si on veut, ou la brochure, ou le bref écrit de l'amour, Laurent Justinien nous a conté son orientation décisive à 19 ans. C'est à 19 ans qu'il oriente toute sa vie. Il écrit ceci. « J'étais comme vous. Je cherchais ardemment la paix, au dehors de moi, sans la trouver. Et enfin, voici qu'une jeune fille plus belle que le soleil vint à moi. Je ne savais qui c'était. Elle s'approcha de moi, charmante, et me dit doucement, « Jeune homme, pourquoi t'épuiser à chercher la paix dans mille variations? Ce que tu cherches est en mon pouvoir. » L'objet de ton désir, ou ce que tu désires, je te le promets à condition que tu m'épouses. » Alors, continue le récit de Saint Laurent Justinien, « alors je lui ai demandé son nom, sa race, sa dignité, et cette belle jeune fille me dit qu'elle était la sagesse de Dieu, qui avait pris une forme humaine pour réformer les hommes. » Et alors, je consentis, bien entendu, et après m'avoir donné le baiser de paix, joyeuse, elle est partie. On peut se référer, évidemment, au livre de la sagesse, au chapitre 6, au verset 16, et au chapitre 8, aussi, il y a plusieurs versets, 2, 9 et 16, je les ai vérifiés dans ma Bible, et c'est très beau, parce que c'est tout à fait un le même récit. On voit que ce jeune homme lisait la Bible, et dans son imaginaire, il a vécu cette rencontre avec la sagesse sous la forme d'une très belle femme. Il n'y a rien de mal à ça, c'est très beau. Il y a quelque chose d'un peu surréaliste dans tout ça. Et je suis sûr que nos surréalistes des années 20, des années 30, ne dédaigneraient pas un récit comme celui de cette portion de la vie de Saint Laurent Justinien quand il avait 19 ans. Donc, Laurent s'ouvre à un de ses oncles qui est chanoine de Saint-Georges. chanoine de Saint-Georges, c'était une congrégation, si on peut dire, de chanoines réguliers qui vivaient un peu comme des moines et attachés à une grande église, vraisemblablement à une cathédrale à Venise. Alors, il lui raconte qu'il voudrait s'offrir à Dieu et sacrifier tout pour vivre comme un saint. Et son oncle lui suggère quoi? Non pas d'entrer tout de suite, mais de faire un essai à domicile, puisque sa mère déjà pratique certaines formes d'ascèse ou de pratique ascétique, ou si vous préférez, de choses qu'elle fait et qui l'amènent sur le chemin du dépouillement de soi pour laisser toute la place à Dieu au cœur de son âme. Et alors, c'est ça l'ascèse. L'ascèse, c'est le dépouillement. C'est le rejet de notre petit moi facile pour laisser place à l'action que Dieu veut faire en nous pour nous libérer, car Dieu veut notre libération, pour nous orienter vers ce qui compte vraiment. Quoi? L'amour des autres, l'amour de Dieu, la réponse à cet amour que Dieu nous porte. C'est ça la vie spirituelle. Et donc son oncle lui suggère de s'entraîner au domicile de ses parents et aussitôt, il entre chez lui et apporte des planches grossières qu'il met dans son lit, sous son matelas. Un matelas très mince, j'imagine bien. Et alors, c'est une pratique qui se fait encore énormément dans des tas de maisons religieuses, et je sais que beaucoup de gens le font chez eux, afin d'éviter d'être trop creusés par des matelas mous, des sommiers qui ne tiennent plus. Et c'est la chose la plus simple. On peut mettre d'ailleurs de grandes planches aujourd'hui ou des machins de bois, la mince et très large, qui font la grandeur d'un lit. On peut faire ça très facilement. Et ce n'est pas malsain, même c'est recommandé pour l'épine dorsale. Alors, il n'y a rien de contraire à la santé dans tout ça. Et sa mère s'est inquiétée quand elle l'a vu faire certaines pratiques religieuses ou pratiques d'ascétisme. Et elle a préparé pour son fils, quoi, un bon mariage. Elle a lui amené une jeune fille qui était assez jolie, qui était de famille assez à l'aise à Venise, et puis qui était même très riche. Alors qu'est-ce qu'a fait notre ami Laurent? Eh bien, il s'est enfui. Il s'est enfui chez les chanoines, chez son oncle, car il se souvenait des textes du livre de la sagesse. La sagesse leur apparaît avec bienveillance sur leur sentier. C'est dans le livre de la sagesse, au chapitre 6, verset 16. Et son oncle l'invite à choisir entre la fortune, la noblesse, la magistrature, les honneurs, les joies conjugales et familiales, l'argent, bref, tout ce que le monde peut nous offrir quand on est à l'aise et de famille remarquable, et d'autre part, la faim, l'éveil la nuit dans la prière à minuit, la chaleur, le froid, la servitude. Et Laurent s'est tourné vers le crucifix, puis dit, Seigneur, tu es mon seul espoir. Et on dit qu'il s'est engagé sur le champ. C'est dans les textes de son autobiographie. Ce choix me fait penser à la carte d'anniversaire que j'ai reçue hier de mon petit-fils. C'était très drôle. Il dit un génie, mais c'est sur la carte, un génie m'est apparu et m'a offert deux choses. $1,000,000 ou le meilleur grand-père de la terre. Il dit, aussitôt, j'ai choisi $1,000,000. J'étais un peu déçu, j'ai tourné la page et c'est écrit en dedans. J'ai préféré prendre $1,000,000 car le grand-père le meilleur du monde, je l'ai déjà. Très sympathique, cette carte. Alors, ce fut notre Laurent Jussigné, un chanoine, qui était vraiment mortifié. Il exagérait, à mon avis. Faut situer, c'est à l'époque. On dit qu'il ne descendait jamais au jardin, même pas pour s'y distraire un seul instant. Moi, j'aime bien les papes au Vatican qui sont surchargés de travail et qui descendent dans le jardin du Vatican pour s'y promener, entendre le chant des oiseaux, voir de belles plantes, de beaux arbres, essayer de respirer un peu d'air, mais au besoin, ils vont aussi à Castel Gandolfo et des gens blâment le pape d'avoir une résidence comme ça à la campagne qui est trop grande, mais le pauvre homme, il est entouré, il faut bien de gardiens d'abord pour éviter que des malades mentaux essaient de l'approcher et même au besoin de l'assassiner comme ça lui est arrivé deux fois, n'est-ce pas bien? Deux fois, je dis bien deux fois, hein. Souvent, on oublie la deuxième fois que ça lui est arrivé. Je pense que c'est aux Philippines. Et puis, ça lui prend des secrétaires, puis des gens pour répondre au téléphone, etc., etc., même quand il est à la campagne. Et donc, on dit que de Laurent Justinien, quand l'hiver arrivait, il s'approchait pas du feu pour se réchauffer. Le pauvre malheureux, je trouve qu'il exagérait. Beaucoup de chanoines se recouchaient après l'office de nuit, et c'est bien normal. L'office de nuit, je vous le signale, pour ceux qui ignorent ce que c'est la récitation de ce qu'on appelle les matines. C'est-à-dire, c'est un office très long, qui était divisé à l'époque en trois nocturnes, trois sections avec des psaumes, trois ou même cinq psaumes, souvent, ce qui est très long, et des lectures assez longues, en latin d'ailleurs, tout se faisait en latin, hein. J'ai connu ça, c'était très long. Et ces offices-là se récitaient la nuit, souvent les moines ou les chanoines se réveillaient vers minuit. J'ai connu ça à la Grande Chartreuse, on frappait à ma porte, la porte de ma maison, à minuit moins 20. L'office commençait à minuit. Alors, c'est le lever de nuit. Ça fait des nuits brisées. Donc les chanoines, beaucoup se recouchaient, c'est bien normal après l'office de nuit. Mais lui, il attendait que l'office de prime commence à l'église. Prime, c'est après l'office de l'aude. Et ça se célèbre en général vers 6h ou 7h le matin. Et alors donc, son endurance aussi à la soif était extrême. Laurent Justinien disait, il était jeune, il parlait comme un jeune. « Comment ferons-nous au purgatoire ?» Mais il disait sans souriant. Et durant tout l'office chanté, il restait debout sans s'appuyer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les chanoines, comme les moines, ont ce qu'ils appellent une miséricorde. Bien oui, une miséricorde, c'est le siège sur lequel on peut s'asseoir quand on récite des psaumes très longtemps, se relève. Quand il se relève, il y a une demi-lune qui s'offre, je m'excuse de le dire, à notre derrière, et on peut s'appuyer et s'asseoir à moitié tout en restant debout. Et les coudes se sont appuyés de chaque côté sur des appuis-coudes quand on est debout. Et ça permet donc de rester debout tout en s'appuyant. Et lui ne voulait pas s'appuyer même sur cette miséricorde. Pourtant, c'est bien pratique. Quand les psaumes durent à la queue leu-leu, une demi-heure, trois quarts d'heure, car l'office des matines était très long. Et pendant le carême, comme il se trouvait malade, à l'âge de presque 70 ans, on voulut lui faire prendre une nourriture un peu réconfortante. Et on lui cita tel saint homme qui avait mangé du faisan le dimanche de la Passion, qu'il n'y avait rien de mal à manger le dimanche de la Passion du faisan. Et Laurent répondit, « Que chacun abonde dans son sens. » C'est un extrait de l'Épître aux Romains, au chapitre 14, au verset 5. « Il faut que chacun soit bien convaincu dans son propre esprit. » C'est saint Paul qui dit ça. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est une pensée qui parcourt le monde aujourd'hui avec raison. Il faut que chacun soit bien convaincu dans son propre esprit. Et c'est ce qui fait dire au concile, aux évêques, et à toute l'Église catholique, que chacun doit suivre sa conscience. Et c'est pour ça que le pape accepte de recevoir dans la prière des bouddhistes, même, des musulmans, des juifs, des chrétiens de toutes sortes, et tout le monde qui veulent prier comme il l'a fait à Assise et ailleurs. Il est fait très bien. Je répète cette parole de saint Paul, il faut que chacun soit bien convaincu dans son propre esprit. Et saint Laurent Justinien disait que chacun abonde dans son sens. Donc il ne blâmait pas ceux qui mangeaient du faisan le dimanche de Passion, mais lui n'en voulait pas. À vrai dire, disait-il, j'aime mieux les exemples des vieux saints. Je vois que les confesseurs, ajoutait-il, ont mortifié leur chair et les martyrs ont versé leur sang pour gagner le ciel. Quand il était jeune, les chanoines avaient voulu modérer son zèle. Et il disait, commandez, j'obéirai. Je vous dirai seulement que si l'on est décidé à souffrir pour le Christ, il doit donner la force nécessaire. Et c'est vrai. Les saints se sont décidés à parcourir le monde au besoin, ou à s'enfermer dans des monastères, ou à aller vivre parmi les plus pauvres dans les villes ou dans les campagnes, dans la jungle et partout. Si l'on est décidé à souffrir pour le Christ, il doit donner la force nécessaire. C'est un des appuis sur lesquels se fonde toute consécration à Dieu, dans le mariage, dans la vie du célibat, dans la vie religieuse, ou quand un homme accepte de devenir pape. Je pense que cette tâche épouvantable, ou d'être nommé évêque, il doit être une tâche aussi effroyable. Si l'on est décidé à souffrir par le Christ, il doit donner la force nécessaire. Il est tombé malade, il a eu au cou des scrofules, ce sont des espèces d'empoisonnements là-haut. Et les médecins ont ordonné des frictions, puis le fer rouge, et Laurent a subi tous ces traitements étranges de la médecine de l'époque. En pensant, dit-il, aux trois enfants dans la fournaise, hein, c'est dans le livre de Daniel dans la Bible, je vous donne la référence, c'est au chapitre 3, j'ai vérifié ça, au verset 24, hein, il est question de comment on les prononce, les noms des trois jeunes gens aujourd'hui, Shadrach, Meshach et Abdelnego. Ce n'est plus les mêmes, c'est sous Nabucodonosor. Hein. Je me souviens que les noms de ces jeunes, quand j'étais jeune, étaient différents. Ça ressemblait à ça, mais c'est pas pareil. Et devenu vieux, Laurent Justinien se lamentait, dit-on, doucement, d'une enflure à la gorge qui l'empêchait de faire son métier d'évêque auprès de son peuple. Car la première tâche de l'évêque, c'est de porter témoignage et de dire ce qu'il doit dire. La parole est la charge principale de l'évêque. Et il disait au médecin, « Allez-y courageusement, votre bistouri ne vaut pas les lames rougies des martyrs. » Alors, dans la vie d'ailleurs, nous sommes tous pris comme ça. Et nous devons être capables de porter témoignage. Et de souffrir d'ailleurs certaines choses qui nous massacrent un peu et qui, ce sont des opérations que font des chirurgiens, entre guillemets, qui peuvent être des compagnons de travail, des amis, des gens de nos connaissances, qui nous retournent à l'envers et qui nous font beaucoup de bien finalement. Laurent Justinien appelait l'humilité la vertu reine. Et parfois, au chapitre, qu'est-ce que c'est que le chapitre, n'est-ce pas? C'est la réunion des chanoines, ou des moines, ou des religieux, ou des religieuses, dans les couvents, à travers le monde, où autrefois, ils s'accusaient les uns les autres, fraternellement, je l'espère, de certaines fautes. Ça existait quand j'étais jeune moine. C'était pas facile, des fois. On nous accusait de choses très dures. Il fallait passer à travers ça avec une certaine humilité et sans rancœur. Mais c'était pas des accusations graves. Ne vous en faites pas. Donc, au chapitre, on l'accusait faussement. Il s'agenouillait en silence. Et un jour, qu'était en compagnie d'un confrère, dans sa ville natale, avec des sacs, et le confrère a voulu éviter certains quartiers. Laurent s'y est refusé avec une brève réplique éloquente, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. Il était ferme, très ferme. Sa mère recommandait qu'on lui remplissait son sac quand il quittait chez elle, remplissait son sac de nombreux pains lorsqu'il passait pour abréger sa corvée. Comme ça, son sac aurait été plein, il aurait pu retourner et prier ou lire. Mais il n'acceptait pas plus de 2 pains de la part des serviteurs de sa mère. Toujours, il a refusé de franchir le seuil de la magnifique maison familiale à Venise. Et cependant, Laurent Justinien a tenu à assister sa mère au moment de sa mort. Cette fois-là, il y est allé. De même, il n'a pas visité ses frères Marc et Léonard, seulement à la fin de leur agonie. Il ne voulait pas rentrer dans ces endroits luxueux. Il n'aimait pas sortir. Il n'aimait pas voir de nouveau. Je comprends jusqu'à un certain point. À un moment donné, on en a marre. Hein? Il préférait rester en cellule ou à l'église. Il n'aimait pas tellement quoi faire comme certaines personnes que je connais, qui aiment bien aller s'amuser, jouer au golf, jouer au tennis, faire toutes sortes de choses. Il préférait vivre très sévèrement. Il célébrait la messe avec larmes. J'ai vu ça de mes yeux vus. Moi, j'ai vu des prêtres mystiques célébrer avec larmes, dont en particulier le père Pio, le fameux stigmatisé, à San Giovanni Rotondo, en Italie, dans le sud de l'Italie. À Noël, son diacre a dû le tirer d'une extase où il s'attardait longtemps. Je vous parlerai d'ailleurs du père Pio. Vendredi le 22 septembre, lui qui est mort un 23 septembre. J'ai assez bien connu le père Pio. Laurent Justinien n'était pas taillé pour prêcher aux foules. Hein. C'était pas son genre. Mais assis dans un chapitre, on dit qu'il était merveilleux à entendre. C'était donc un conférencier plus qu'un prédicateur, et dès 1413 à 32 ans, il a été élu prieur général de sa congrégation, réélu en 1421 à 40 ans. Il en fut comme le second fondateur. Et le pape Eugène IV, qui avait été religieux à Saint-Georges, a nommé Laurent évêque de Castello en 1433. C'est un îlot dans l'Adriatique. Et c'était alors le titre de la résidence du patriarche, et il va devenir donc patriarche de Venise à 70 ans, 1451. Et je continue donc avec Saint-Laurent Justinien. Je lui attache assez d'importance parce que c'est un évêque remarquable. Donc, il a été nommé en 1433, assez jeune, évêque de Castello, cet îlot dans l'Adriatique dont je vous ai parlé. Et le patriarche, c'était le titre du patriarcat, mais en 1451, quand Laurent Justinien a 70 ans, mais le pape Nicolas V transporte à Venise le siège de Castello. Alors, il devient le premier patriarche de Venise. L'humilité de Laurent Justinien a apaisé, si on peut dire, les craintes du doge et du sénat. Ils avaient un peu peur de cet évêque un peu strict. C'était un évêque quand même fort bon. À l'exemple de 2 patriarches de Venise qu'on a connus durant ce siècle, parce qu'ils sont devenus papes tous les deux, Jean-Paul Ier, qui n'a régné, comme on le sait, qu'un mois, et Jean XXIII, qui a été apprécié par le monde entier. Ils étaient patriarches de Venise quand ils ont été élus papes. Alors, pour son important diocèse, Laurent Justinien a redoublé de zèle. Il avait dépassé la cinquantaine lorsqu'il fut promu évêque. Il ne voulut aucune fête extérieure pour accéder à un poste où ses prédécesseurs, dit-on, avaient suscité des jalousies et des conflits. Il s'est choisi pour aide 2 confrères, plus 5 hommes pour les diverses fonctions de la maison, c'est tout. C'est donc très peu de gens pour l'époque. À eux seuls, ils administraient tout ce qui relevait de la République de Venise. C'était une République Venise, administrée par un doge élu. Il a gardé l'habit bleu, plutôt pâle, des chanoines, car ces chanoines portaient un vêtement bleu pâle. il a éliminé tout luxe, tout faste. Je me souviens quand le cardinal Léger a été nommé évêque à Montréal, était cardinal, on l'entourait de faste. Peut-être aimait-il ça d'ailleurs, mais il s'en est détaché petit à petit. Je l'ai bien connu, le cardinal Léger. Et je me souviens, dans les randonnées qu'on faisait ensemble au Cameroun, il était vêtu d'une simple soutane kaki, le béret sur le coin de la tête, conduisant sa petite voiture à toute vitesse sur les routes de terre du Cameroun, très humble, il me servait à table. Il était vraiment très gentil avec moi, très simple, pas compliqué pour deux sous. Laurent Justinien, patriarche de Venise, avait une table très simple, très modeste. Il détestait l'argenterie, il n'en voulait pas. On faisait la lecture pendant les repas, selon l'usage des bénédictins. Notre patriarche de Venise mangeait volontiers des œufs. Sa chambre était plutôt étroite, et il y avait là une paillasse, avec une couverture plutôt usée. Personne avait accès à sa chambre, car il voulait y prier en toute liberté. Laurent Justinien a lutté pour son diocèse, car ce diocèse avait été trop négligé par ses devanciers. Il a développé l'ordre des chanoines, des hommes de prière, quoi. Il a augmenté les prêtres, il a institué des chantres aussi, des chorales. Les églises où l'on disait rarement la messe ont été remises en état pour même recevoir des offices pontificaux, car il aimait visiter ces paroisses. Il a publié de très belles constitutions pour améliorer le clergé, pour en faire un ensemble de prêtres consacrés vraiment aux fidèles. Il a soigné les monastères, ceux des femmes surtout. Et on a trouvé une vingtaine de monastères à son arrivée, mais quand il est parti, il en laissait plus de 35. Il rappelait aux curés qu'ils auraient à rendre compte de leur charge. Il s'inspirait pour ça de la règle de Saint Benoît vers la fin du chapitre 2. Je n'ai pas le temps de vous lire ça, mais ceux qui ont la règle de Saint Benoît chez eux peuvent se référer à la fin du chapitre 2 qui est consacré, n'est-ce pas, comme vous savez, au père abbé, c'est-à-dire au supérieur des abbayes des monastères de bénédictins. Laurent Justinien employait des personnes sûres, notamment des veuves, pour soulager les misères cachées. On fouillait dans Venise pour trouver les plus pauvres, les abandonnés, les gens cachés dans leur misère. Et c'était des veuves, souvent, qui l'assistaient dans ce ministère. Un parent, pas très pauvre, lui a demandé un jour un peu d'argent pour doter sa fille qui devait se marier, car les filles se mariaient en recevant une dot et en offrant ça à leur futur mari. Et il disait, si je donne peu, eh bien c'est inutile. Si je te donne beaucoup, je vole le peuple pour un intérêt bien particulier. Or, le pain des pauvres est préférable à une belle coiffure et à des boucles d'oreilles. Alors, excuse-moi. C'est comme ça que c'est excusé auprès de son parent. En hiver, il fait la distribution de bois de chauffage. Patriarche de Venise, qui fait la distribution lui-même de bois de chauffage. On lui donnait des sommes fabuleuses, dit-on, mais parfois il empruntait pour pouvoir donner encore plus aux plus pauvres. Et Saint Laurent Justinien avait le don de plaire et en même temps de satisfaire. C'était vraiment un précurseur de ce Jean-Paul Ier et de Jean XXIII qui ont été patriarches de Venise et qui ont été semblables. Le doge de Venise, c'était, disons, un doge pour vous, au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est un duc, si vous voulez, mais électif. Il n'y a plus doge à partir de 1797, c'est fini, ça, Venise. Donc, le doge, un jour, l'a convoqué à propos de certaines mesures contre les toilettes des femmes. Il trouvait qu'il exagérait. On peut lire certains livres comme ça, comme « La femme italienne à l'époque de la Renaissance ». Il y a même des illustrations dans cet ouvrage, mais il est paru il y a très longtemps. On ne trouve ça que dans des bibliothèques. Alors, il lui a reproché à cette à notre saint sa sévérité dans le style de Savonarole, dont je vous parlerai un jour. Lui a exercé son ministère, ce dominicain, à Florence. Il a été brûlé par les catholiques parce qu'il était trop sévère. Et saint Laurent s'est expliqué si bien que le doge, en essuyant une larme, lui a dit « Vous êtes un ange, mais non un homme. Allez donc, mon père, et faites votre métier. » Et c'est dans le texte « Allez, mon père, et non pas mon seigneur, ou éminence, ou excellence. » Non, 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 non. « Allez, mon père. » Et il disait plus tard, en riant, que Laurent, Justinien, était le seul mortel avec qui il aurait consenti à échanger son âme. C'est tout un compliment, ça. Donc, notre prélat, là, tout spirituel, était de très bons conseils quand il s'agissait même d'affaires temporelles. Il avait pu étudier, mais cependant, il répondit fort bien un jour à un théologien qui l'interrogeait sur les relations entre les différentes personnes de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Et comme le théologien voulait pousser trop loin, saint Laurent Justinien lui a répondu, il est écrit. Les folles questions. C'est dans l'épître à Tite, ça, de saint Paul, au chapitre 3, verset 9. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Les folles questions et les généalogies, les discussions et les batailles au sujet de la loi, évitez-les donc, car elles sont inutiles et vaines. C'est donc vrai, ça. Quand on étudie la Bible, cessons donc de discuter pour rien. Mettons donc en pratique ce qui est dit, de positif et de beau et de grand. Et Laurent Justinien ajoutait, « J'ai dit ce que je pensais, si c'est bien, c'est bon, sinon, cherchez plus savant que moi. » C'est ce qu'il disait aux théologiens. Saint Laurent écrivait beaucoup, il a laissé beaucoup d'œuvres d'ailleurs, son esprit, qui était ennemi de toute spéculation vaine et insensée, semble s'apparenter à celui de quelqu'un qui a vécu au même temps, Gerson, le fameux Gerson, qui était chancelier de l'Université de Paris, qui a laissé des sermons intéressants, et qui est mort en 1429. Un jour, je vous parlerai de ce fameux Gerson. Alors, Laurent Justinien vise plutôt, lui, à sanctifier les religieux, à sanctifier les prêtres. Il cultive le genre affectif. Je crois que c'est souvent ce qui manque à certains de nos évêques, certains de nos prêtres, c'est de pas cultiver, je dirais, le genre affectif. Pas savoir nous parler pour nous faire aimer. C'est un don, hein? C'est pas tout le monde qui l'a. Je les blâme pas. Mais que ceux qui l'ont, là, s'en servent, oh, pas de façon mélodramatique, c'est pas ça, mais de faire sentir que eux aussi, ils veulent aimer Dieu. Et la manière de Laurent Justinien est abondante, hein. C'est pas le schématisme là, ou les schémas scolastiques qui sont en honneur dans son temps, qui ont été en honneur d'ailleurs jusqu'à tout récemment. La langue de Laurent Justinien a une certaine grâce. Son latin, quand on le lit, c'est meilleur, dit-on, que celui de ses contemporains. D'ailleurs, un prêtre de son clergé qui était adultère, qui avait une maîtresse, qui était en plus de ça simoniaque et qui faisait donc le commerce des sacrements, qui était voleur en plus de ça, mon Dieu, pauvre prêtre, était désespéré de ne pas avoir de quoi se nourrir les enfants que sa maîtresse avait mis au monde, alors il songeait à se suicider. Averti de tout ça, Laurent Justinien le fait venir. Et il lui dit des mots de consolation, mais aussi de menaces légères qui convenaient à sa situation qui était épouvantable à ce prêtre. Hein. Alors, il a ajouté, chose étonnante, quelques pièces d'or qu'il a donné discrètement à ce prêtre pour l'aider à payer ses dettes pour nourrir ses enfants. Alors, le prêtre a été très touché de cette attitude de son évêque. Et sa vie est devenue édifiante. Il a laissé sa maîtresse. Mais il a continué à s'occuper de ses enfants, puis il a fait oublier tous les scandales passés. Laurent, donc, avait une façon de comprendre ceux qui étaient dans la désolation et le péché. Il était loin des espèces de d'attitudes tranchantes. Hein. D'ailleurs, on a retenu de lui certaines maximes qui sont très intéressantes. Il disait, pour se priver, il ne faut pas attendre que le corps soit rompu, il faut se priver pour le rompre. Et c'est vrai qu'en privant notre corps un peu, On rompt notre corps et on en fait quelque chose de noble, de vrai. Vraiment le temple de la Trinité. Un corps qui devient le miracle qu'il est, les mains servant à donner, ou même à accueillir. Une bouche qui sert à dire des paroles sensées. Un regard qui se dépose sur les gens qui nous entourent avec tendresse. Des oreilles qui cherchent à entendre la parole de Dieu et les choses valables. Des jambes qui nous mènent là où on doit aller pour rencontrer Dieu et servir les autres. Un corps, quoi, qui sert vraiment, hein? Il faut qu'il soit rompu. Il disait aussi, l'humilité est comme un torrent, presque à sec en été, abondant en hiver et au printemps. Dans la prospérité, elle peut se faire petite, mais dans l'adversité, qu'elle soit magnanime, l'humilité. Il dit aussi qu'il n'aimait pas les monastères grands et luxueux. S'il en voyait un, il branlait la tête. Il disait, pas comme ça, nos anciens, pas comme ça. Fallait la pauvreté. Un moine, disait-il, ne doit rien fixer qui puisse retenir son désir. Mais c'est vrai qu'un moine doit être dépourvu de désir, sauf d'un seul, hein, de servir Dieu et de l'aimer. Et il a choisi cette voie-là, qui est une voie difficile et exigeante, le moine, hein, c'est pas à suivre par les gens du monde. Un homme, une femme doivent désirer le bien-être de leurs enfants, doivent désirer aider les autres, doivent désirer s'amuser avec leurs amis, doivent désirer rire, sourire, chanter, tout ça. C'est pas comme des moines exigeants, mais même les moines, je crois aujourd'hui, doivent savoir connaître la joie. On dit aussi qu'il se montrait difficile pour le recrutement monastique. Mieux vaut, disait-il, ne pas entrer dans la vie religieuse que d'en être un déserteur. Une fois prêtre, Laurent Justinien célébrait la messe tous les jours. C'était exceptionnel à l'époque, sauf s'il était malade. Il disait, celui qui n'utilise pas son Seigneur quand il pourrait l'utiliser, montre qu'il ne s'en soucie guère. La chasteté et les facilités charnelles, il disait, éteindre un feu en lui donnant du bois sec. Et c'est assez juste. Le don de pauvreté, pour le comprendre, dit-il, il faut aimer contempler dans le secret de sa cellule. Je crois que le don de pauvreté pour quelqu'un qui a de l'aisance avec sa femme et ses enfants, c'est la même chose. Savoir contempler dans le secret de son cœur, Dieu. Et savoir être en somme détaché de tout ce qu'il possède pour aimer par-dessus tout Dieu. Sachant qu'il peut perdre sa femme, que ses enfants peuvent le trahir, que le feu peut prendre, il peut tout perdre, tout ça, au fond, même si c'est absolument merveilleux qu'une épouse, des enfants, avoir le sens du détachement, c'est très, 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 très difficile. C'est un idéal presque inaccessible, mais la grâce est donnée à certains. Savoir accepter que son fils meurt à 40 ans, savoir accepter, c'est pas facile. Ça s'accepte dans les larmes, ça prend des mois, et ça se fait. Il disait, Dieu cache à dessein la grâce de religion. Si l'on connaissait le bonheur qu'elle donne, tout le monde accourrait. Je me demande pourquoi Dieu cache ça, la grâce de religion. Ah, c'est vrai que si tout le monde savait le bonheur qu'on a à aller à la messe, à l'Eucharistie, tout le monde courrait. Je ne comprends pas pourquoi les autos passent devant les églises sans s'arrêter. Sur semaine, quand les portes sont ouvertes, là en été, il disait, la vraie science tient dans ces deux propositions. Dieu est tout et moi rien. Proposition extrêmement difficile. Mais c'est vrai que nous ne sommes rien sans lui. Qu'est-ce qu'un être humain qui ne croit pas en Dieu, si ce n'est quelqu'un qui se promène dans un désert immense qu'est l'univers, où Dieu ne parle pas, où il n'y a pas de saint, où il n'y a pas de survie, où il n'y a rien? Rien que le concret, là, l'immédiat, il n'y a pas d'âme. Oh, que ça doit être difficile d'être athée, hein? Que ça doit être dur. Je crois que c'est le plus grand handicap. Quelqu'un qui est grabataire, sourd et muet, ne souffre pas autant, à mon sens, qu'un athée qui réalise, au cru de son athéisme, le désert lunaire dans lequel il est. Laurent Jussien disait « Il ne faut jamais perdre la confiance en Dieu, elle est la vie de l'âme. » Il disait aussi « Le riche ne se sauve que par l'aumône. » Et il disait merveilleusement « Le métier d'empereur ou de doge est un jeu, à côté de celui d'évêque. » Ils régissent du visible, l'évêque régit de l'invisible. C'est beaucoup plus grave. J'en profite pour saluer les évêques qui m'écouteraient. Merci. Merci. Il disait aussi « La prière du prince peut apaiser Dieu, mais si le peuple a d'autres soins, c'est autre chose. » Il disait « Il faut éviter les affaires trop compliquées. Il y a du démon dans les complications. » Pas bête, ça. Il disait aussi « La gloire mondaine est bonne si elle est la servante de la vertu et non pas sa patronne. » Et Laurent est mort à 74 ans. Il avait été un homme de belle taille. Il avait un teint pâle, ce qui était recherché à l'époque, dit-on. Mais l'âge et la maladie avaient usé son corps. L'esprit, en Saint Laurent Justinien, patriarche de Venise, rajeunissait. Et il évoquait en souriant Saint Paul. Il a écrit jusqu'au dernier jour. Il disait « Comme je m'en irais volontiers s'il plaisait à Dieu, je ne vaux pas mieux que mes pères. » C'est une parole qu'on trouve dans le troisième, ce qu'on appelle le troisième livre des rois, ou le premier livre des rois, au chapitre 19. Il disait aussi, mais bon Jésus, ne faites pas attention à ce que je dis, voyez le bien de votre peuple. Alors, il acceptait de vivre. Il est tombé malade, on lui a préparé un lit. Il s'est indigné de la préparation de ce lit parce qu'il y avait de la plume. Alors il disait, de la plume? Monseigneur n'a pas couché, Monseigneur c'est Jésus ça. Monseigneur n'a pas couché dans de la plume, mais sur un bois très dur de la croix. Vous ne vous rappelez pas ce que Saint Martin a dit? Un chrétien doit mourir sur la cendre et le cilice. Je crois qu'il faut savoir mourir en tous les cas dépouillé. Tout donner avant de mourir, se détacher de tout. Laurent Justinien s'affligeait de l'argent qu'on dépensait pour soigner, disait-il, ce vilain sac. C'est comme ça qu'il considérait son vieux corps. Ce vilain sac. Mais ce vilain sac est un miracle, je vous le rappelle. Il pensait aux pauvres, il pestait contre le gaspillage. Il a senti sa dernière heure proche. Il disait, jusqu'ici c'était de la farce, mais là ça devient sérieux. Que j'aime ce vieil évêque qui meurt dans l'humour. L'époux est tout prêt, disait-il. Allons à lui. On pleurait autour de lui. Et il disait aux gens autour de lui, allez-vous-en avec vos larmes. Et je vous répète cette parole incroyable qu'il a dit avant de mourir. Allez-vous-en avec vos larmes, c'est le moment de rire et pas de pleurer. Est-on prêt à mourir de cette façon-là? La mort, comme je disais à ma mère pendant une dizaine d'années, je vous l'ai déjà dit, la mort, c'est le plus beau jour de notre vie. C'est la grande rencontre avec Dieu. Si on avait la foi, on n'aurait pas peur de la mort. Je salue une amie, Madame Fielden Briggs, une Française, malgré son nom anglais, son mari était anglais d'Angleterre, qui me disait il y a quelques jours, « Je suis bien âgée, mais je n'ai pas peur. J'ai confiance, je n'ai plus peur de la mort. » J'étais très touché. Elle m'a téléphoné dimanche. Chère vieille Madame Fielden Briggs, que je connais depuis si longtemps, que j'aime beaucoup. Il disait d'ailleurs, juste au moment de sa mort, « Je viens à toi, bon Jésus. » Il est mort le 8 janvier 1455. Oui, le 8 janvier 1455. Pourquoi le fête-t-on le 5 septembre? Vous verrez. Saint Laurent Justinien avait demandé à être porté, sans éclat, dans son monastère, pour y être enterré, ignoré. C'était un grand lecteur, hein? C'était un écrivain actif. Pourtant, il n'a pas laissé un seul livre qui lui appartenait en propre quand il est mort, il les avait tous donnés. Les livres étaient importants, là, c'était au 15e siècle, c'était le début. Hein? Il fut enterré seulement le 17 mars. Le corps est resté plus de 2 mois sans se corrompre. C'est extraordinaire, hein? Et Clément VII l'a béatifié, 69 ans après sa mort, en 1524. Alexandre VIII l'a canonisé en 1690. Et Benoît XIII a promulgué la canonisation définitive en 1724. Or, la raison pour laquelle on fête le 5 septembre, c'est que c'est l'anniversaire du jour où on a vérifié ses restes. Saint Laurent Justinien, un grand évêque, un évêque admirable,